Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC et sur RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT. Merci d'être avec nous. Estelle, elle n'est pas là aujourd'hui, elle est en vacances, mais elle sera de retour avec nous dès lundi prochain. Autour de moi aujourd'hui, il y a Alfred Orange, journaliste RMC, Thierry Moreau, journaliste média, Jérôme Lavrieux, propriétaire de Gîte, ainsi que Pierre-Édouard Magnan, militant associatif. Dans un instant, on va parler de quoi ? On va parler de nos restaurants. Vous avez peut-être vu deux, trois changements si vous avez l'habitude d'y aller de temps à autre. Dans le prix, dans la quantité dans votre assiette, également dans la qualité de service. Et on vous pose cette question, avez-vous encore envie d'aller au restaurant ? Vous nous appelez au 3216 à 14h30. RMC s'engage pour vous. Johanna Chabas tente aujourd'hui de venir en aide à René qui a voulu investir ses petites économies dans un EHPAD et qui s'est fait arnaquer. Et puis à 14h40, les immanquables. Alfred, on parlera de quoi notamment ?
Alors on parlera de Noël Le Graët, à peine limogé et déjà recasé. Et puis on parlera aussi des touristes étrangers qui font le bonheur et la fortune de la France.
RMC Estelle Midi.
Le menu du jour, menu de nos restaurants avec une carte toujours plus chère, moins de quantité dans l'assiette et un service qui laisse parfois à désirer. Alfred, le secteur est confronté à de multiples difficultés en ce moment.
Oui, entre l'augmentation des coûts de l'énergie, l'augmentation du prix des matières premières et la pénurie de personnel, les restaurateurs sont obligés bien souvent de réduire la voilure. Conséquence, des plats moins copieux et souvent plus chers. 2 euros de plus en moyenne d'après l'UMI, le principal syndicat de l'hôtellerie-restauration. Certains restaurateurs réduisent leurs portions. Au lieu de mettre 180 grammes de poisson dans l'assiette, ils n'en mettent plus que 150 en ne baissant pas le prix. D'après le groupement hôtellerie et restauration, un quart de ces restaurateurs reconnaissent ce genre de pratique. Ajoutez à cela un secteur en pénurie de personnel. 200 000 postes sont toujours à pourvoir d'après Thierry Marx, patron de l'UMI. Résultat, les gérants acceptent sans entretien les premiers venus qui arrivent souvent en salle sans aucune expérience.
Merci Alfred, on vous pose cette question face à ce constat. Est-ce que vous avez encore envie d'aller au restaurant, Thierry? Est-ce que tu as remarqué des changements?
Envie, oui, évidemment. Je voudrais quand même juste avoir une pensée émue pour ceux qui arrivent à peine à remplir leur frigo et remplir leur réservoir et qui ne vont pas au restaurant. Mais est-ce que j'ai perçu des changements? Oui, de prix, évidemment. Moi, j'y suis allé la semaine dernière, j'y avais pas été depuis très très longtemps. Effectivement, il y a une augmentation des prix. Après, ce qui va se passer, et comme souvent, et on rejoint un peu le sujet du début, c'est que la très haute gastronomie va continuer, parce que cette clientèle de haute gastronomie, elle est essentiellement étrangère. Quand on va dans des palaces, on voit que ce sont les clients des palaces, etc. Donc là-dessus, ils peuvent augmenter de 10 ou 20 balles chaque place, ça change pas grand-chose.
Oui, c'est une niche.
En revanche, toutes les petites brasseries, les petits restaurants de quartier où notamment le plombier du coin venait manger un steak frites rapidement entre deux chantiers, eh ben ceux-là ils vont souffrir parce que ils ont un, les clients en moins, deux, les matières premières qui augmentent, trois, l'énergie qui augmente. Et ça, je pense que c'est quelque chose. On commence à voir et on le sent et on le voit dans les articles dans la presse économique, beaucoup de restaurants qui ferment. Ou qui ne retrouvent pas de repreneurs, ou qui sont repris par des chaînes de restauration rapide, où là, il y a une économie, un modèle économique qui est très différent, et où on n'y mange pas bien.
Alors, Thierry, là, tu te mets du côté des restaurateurs.
Et sur le manque de service, j'aurais juste dit.
Je parle du client, en France, seulement en France, mais j'en ai conscience pour ceux qui en ont les moyens. Mais en tout cas, on se donne souvent encore aujourd'hui les moyens en France. Je ne parle pas d'un grand restaurant gastronomique, mais d'aller dans un petit resto du coin. On aime ça en France. L'été, on le voit, les terrasses des restaurants sont pleines. On aime ça. Et que je ne parle pas que de Paris ou des villes touristiques.
Oui,
c'est
oui,
moi, je suis en province et ça se passe comme ça. Et c'est vrai que, quand même, tu te poses des questions.
Il y a un petit peu moins de portions.
Quand tu as un service qui se détériore, dans ton assiette, moi, je l'ai vécu, c'est du vécu. Tu avais avant une assiette de frites, je suis du Nord. On a dans le Nord. Et là, tu te retrouves avec une poignée.
C'est un crime, une assiette de frites réduite dans le Nord.
Tu te retrouves avec une patate dans ton assiette et que le prix a augmenté, au bout d'un moment...
Oui, alors après, je veux juste mettre un bémol sur le service, c'est que quelquefois dans certains restos où ils n'ont pas assez de serveurs, les serveurs sont obligés de beaucoup courir et il y a un peu d'attente.
Moi, j'ai constaté pas que ça.
Après,
j'ai vu des gens très sympathiques, mais qui ne savaient pas faire.
Alors, il y a ça aussi parce qu'ils recrutent rapidement et ils ne forment pas toujours et que c'est un métier, ça reste un métier quand même, de porter plusieurs assiettes et de faire bien le service. Je terminerai par un dernier... truc, c'est la légende des services dans certains restaurants, notamment dans la région parisienne, où le service est odieux. Il y a notamment une des restaurants qui appartiennent à...
Les gens ne sourient pas, vous parlez comme un chien.
On a l'impression que c'est presque une carte d'identité de ces restaurants quand le serveur vous fait la gueule, quand il vous sert. Ça existera toujours et c'est pas très grave. Autant de pas y aller, il suffit de ne pas y aller. Mais c'est vrai que sur le service, juste un petit bémol, les serveurs quelquefois ils courent, ils apprennent.
Moi je les accuse de rien.
Et donc faut être un peu.
Non mais je les accuse de rien. Effectivement, mais j'ai vu des serveurs débordés parce que manque de personnel et qui sont très gentils mais qu'on le voit ils n'en peuvent.
Donc soyons compréhensifs. Moi j'en connais beaucoup qui triment.
Et je ne les condamne pas, mais j'ai vu aussi, c'est vrai, vu le prix qu'on paye, etc. J'ai vu des serveurs très gentils. Mais qui ne savait pas faire, très clairement.
Vous êtes à peine. Mais ils seront dans quelques semaines. Retourne dans quelques semaines, ils seront mieux.
Oui, j'espère.
Moi, en tant que professionnel du tourisme, mes clients dans mes gîtes me demandent quel restaurant ils peuvent avoir à proximité. Et le phénomène que j'ai vu, c'est que c'est de plus en plus compliqué d'avoir un restaurant ouvert à proximité. C'est-à-dire l'amplitude horaire a beaucoup réduit. Avant, c'était souvent en haute saison, et 7 jours sur 7, les restaurants étaient ouverts. Maintenant, c'est plus le cas. De moins en moins le cas. Il y a des mois entiers où le restaurant est complètement fermé pour cumuler les congés. Et moi, c'est mon problème. C'est un problème, c'est que... Est-ce que vous avez envie d'y aller ? Oui. Est-ce que vous pouvez y aller physiquement ? Non, parce que la plupart maintenant sont fermés au moins une ou deux journées par semaine, et voire plusieurs semaines dans l'année.
Mais sur cuisine,
c'est un vrai problème. Non, je souhaite du bien à mes clients, donc je ne me mettrai pas en cuisine.
Ils reviennent surtout.
J'ai sans doute beaucoup de talent, enfin non, pas beaucoup, mais pas celui-là. Et franchement, je voudrais que mes clients reviennent, donc je ne vais pas me mettre en cuisine. Sinon, je serai poursuivi et j'ai mon compte de poursuite, ça me suffit. Donc, je ne vais pas aller sur ce domaine-là, mais il y a ça. Il y a aussi le fait. Il y a aussi beaucoup de. Il y a des restaurateurs qui savent pas se mettre à la page dans l'organisation de leur personnel. La coupure, quand vous avez un jeune qui commence, on le fait travailler entre midi et 14h30, puis on lui dit tu reviendras à 18h, et puis entre temps, qu'est-ce que tu fais ? Tu glandes, et puis tu vas rentrer chez toi à 1h du matin. Par contre, il y a des expériences qui ont été menées, y compris dans des très bons restaurants dans la région de Bordeaux. Ils se sont mis à mettre la semaine de 4 jours avec des plannings prévus à l'avance, qui fait que c'est pas toujours les mêmes qui sont là le dimanche, etc. Et ça se passe bien. Et là, ils ne trouvent pas de problème pour recruter. Donc, je pense qu'il faut aussi ça. Moi, j'ai eu, parce que je suis allé me renseigner chez un tel ou un tel pour savoir vous fermer, il y a aussi un effet de la pénurie du personnel. C'est que dans la restauration collective, qui a repris, puisque les entreprises ont réouvert, ils ont eu beaucoup de personnels qui ne sont pas revenus. Et ils embauchent beaucoup de gens de la restauration, et parfois pour des petits restaurateurs qui tiraient le diable par la queue, ils étaient à peine à l'équilibre, le mec il devient maintenant salarié dans la restauration collective, il a plus la charge financière, mentale, physique, d'avoir son propre restaurant, où si tu perds, tu perds tout. Et c'est pareil pour beaucoup de boulangeries de village qui ferment, parce que le boulanger il va travailler dans le supermarché, et il a des horaires fixes et des revenus assurés.
Pierre-Edouard Magnan, est-ce que tu as encore envie d'aller au restaurant ?
Oui, toujours. Alors, quand j'ai vu le sujet, alors sur la hausse des prix, ça c'est indéniable, mais en même temps, à partir du moment où le prix d'entrée augmente, le prix de sortie augmente aussi.
Le service à côté.
Et donc ça, on peut pas y échapper. Moi après, j'allais dire, il se trouve que je me déplace beaucoup dans un professionnel, donc je mange relativement beaucoup au restaurant.
Ça ne se voit pas.
Si un peu quand même. Mais j'allais dire plutôt dans des brasseries. Il m'arrive aussi de faire de temps en temps quelques restaurants un peu plus haut de gamme. Moi, j'ai pas eu le sentiment d'avoir moins et d'être moins bien servi. Alors. Et je répète, je ne fréquente pas toujours, parce qu'il y a aussi le truc, quand on va tout le temps au même restaurant, dès quand on est un habitué en restauration, évidemment, la qualité de service n'est jamais la même que celui qui déboule pour la première fois. C'est toujours formidable d'être habitué dans la restauration, mais il m'arrive de bouger, donc ce n'est pas le cas. Il y a quelques restaurants où on me connaît un peu. Et je n'ai pas effectivement vécu ça. Moi, à la limite, je trouve que la réduction... Alors, je ne parle pas de ce scandale inadmissible de la poignée de frites dans le Nord-Pas-de-Calais. Intolérable.
C'est un crime. J'ai failli me lever de table.
C'est un crime. Et je pense que peut-être pas me prêt à manifester. Il y a des grèves le 7, mais le 8, je propose qu'on manifeste là-dessus. Mais cela dit, à la limite, que la bavette passe, je dis n'importe quoi, de 180 à 150 grammes, alors à condition que ce soit affiché, que ça ne soit pas, entre guillemets, que ça monte pas avec le prix, à la limite, c'est pas dramatique. On mange trop de viande. Quelque part, c'est pas dramatique. Je répète, à condition, un, que ce soit affiché, et deux, que t'aies pas une baisse de la quantité, puis une hausse du prix. Parce que là, ça devient effectivement ingérable. Mais je veux dire, voilà, moi, j'ai pas eu, enfin, c'est vrai, j'ai encore même, hier midi, j'ai encore mangé sur Paris dans un restaurant. Il y avait du bruit, on était un peu serré comme d'habitude dans les petites brasseries parisiennes, mais j'allais dire j'ai trouvé des jeunes plutôt aimables, j'avais pas faim en sortant, j'ai mangé qu'un plat. Voilà, enfin j'ai pas eu ce ressenti, je répète sur la hausse de prix. Oui, ça c'est clair. Mais on ne peut pas faire autrement. Dans le contexte actuel, on ne peut pas demander aux restaurateurs de digérer, c'est quoi de le dire, tout seul, la hausse des matières premières et de l'énergie. C'est pas tenable.
Yves Condebord est avec nous. Bonjour Yves Condebord.
Ouais, bonjour.
Merci
bonjour.
De nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC. RMC Story, on vous connaît bien, Yves Condebord sur RMC. Hein, vous êtes restaurateur. Yves, la hausse des prix dans les restaurants, les quantités dans les assiettes qui diminuent petit à petit, un service qui parfois, je dis bien parfois, laisse un peu à désirer. Vous êtes d'accord avec ce constat ou pas ?
Bon, c'est un constat qui est un peu quand même un peu violent. Il est vrai qu'on est en train de, voilà, on est dans un virage, je pense, un peu de notre métier dans les mois à venir, voire dans l'année à venir, avec ce qui s'est passé le Covid, avec aujourd'hui, voilà, le moins d'intérêt qu'il y a d'emploi dans notre profession. Et c'est vrai que la hausse des prix, ben, elle est présente, je pense qu'elle est présente un peu partout aussi, les généralités, c'est pas que dans la restauration, elle est là, et qu'on doit apprendre à s'adapter à tout ça et trouver des solutions, ce que je pense que les vrais professionnels sont en train de trouver. La problématique de notre métier, on va le dire encore une fois de plus, c'est qu'il y a 80% des gens qui n'ont rien à y faire. Voilà, ouais. C'est un métier qui n'est pas respecté parce qu'on laisse tout le monde faire n'importe quoi. Les vrais professionnels sont capables de s'adapter et de trouver des solutions.
On a eu le problème, c'est du jour au lendemain, tout le monde s'est mis à vouloir ouvrir son restaurant parce qu'ils avaient vu une émission culinaire à la télé. Et c'est pas simple parce qu'il faut être à la fois cuisinier, il faut être un bon gestionnaire, il faut être commercial, il faut savoir accueillir parce que c'est pas juste qu'on a l'assiette, c'est le sourire qui va avec, c'est le service qui va avec. Et je passe souvent devant votre établissement, j'ai pas encore osé franchir la porte du côté de l'Odéon, mais je pense que je vais le faire.
Ouais. Mais je pense que ce métier, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on est en pleine crise, faut pas se voiler la face.
Oui.
On a une vraie problématique. On a aussi des conventions qui sont peut-être un peu ancestrales et qu'il faudrait faire évoluer, voire peut-être trouver des conditions de travail adaptées à notre métier, avec une fiscalité peut-être adaptée aussi à ce métier de la restauration. Et quand je dis restauration, j'englobe bien sûr tous les métiers de bouche, du boulanger au pâtissier, en passant par le charcutier.
Mais Yves Condebord, vous avez décrit, hein, et nous aussi auparavant, ce contexte. Il y a quand même une accumulation d'éléments. On l'a dit, il y a la crise, il y a l'inflation. Vous payez plus cher vos matières premières, etc. Donc, vous êtes bien censé trouver des solutions. Et l'une des solutions, malgré tout, c'est d'augmenter le prix des plats. Il y a autre chose, Yves. Il y a donc la hausse des prix. On peut l'entendre. Et voilà. Il y a les quantités qui sont un peu réduites pour ne pas trop faire flamber les prix. On réduit un peu aussi la quantité. Ça, on peut l'entendre aussi. C'est lié à l'inflation.
Non, je suis pas d'accord avec vous.
Alors, pourquoi vous êtes pas d'accord?
Mais parce que si on est professionnel, je n'augmente pas mes prix et je
paye. Mais on parle de la restauration en général.
Je vous prends un exemple. Vous êtes intelligent. Je vous prends un exemple aujourd'hui. Voilà.
J'essaie.
On vit aujourd'hui la mise à mort de la protéine animale. Et on est tous d'accord qu'il y a une surproduction de protéines animales et qu'il faut arrêter d'en manger comme on en consomme. Voilà. Ça, c'est une réalité. Donc, nous, en tant que restaurateurs, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on descend notre grammage de protéines animales dans notre
D'accord,
assiette.
Ok.
On augmente deux fois plus le végétal. Ça fait qu'à la finalité, nos prix d'achat, ils sont identiques. Donc,
moi, je donnais une expérience personnelle. C'est pas mon bœuf qui avait diminué en taille, c'était les frites, hein.
Ce qui est un peu couillon.
Ouais, mais c'est une hérésie, oui. Là, c'est une hérésie. C'est fait par des gens qui n'ont pas de réflexion. Je crois que chaque génération a quelque part son combat à mener. Il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir évoluer avec le monde qui est autour de nous.
Les prix augmentent un petit peu. Il y a une pénurie, on le sait, historique de personnel. Ce qui fait que parfois, un certain nombre de Français se retrouvent dans des restaurants où les gens sont bien sympas. Hein. C'est pas un problème d'être sympathique ou pas, mais ne savent pas faire. Donc, quand vous payez plus cher et que vous êtes reçu, disons, pas d'une super manière, est-ce que vous n'êtes pas inquiet quand même pour le secteur?
Oui, on est inquiet pour le secteur, mais une fois que je le pue, moi, je suis pas tellement inquiet pour tous mes copains qui sont professionnels. Je suis pas inquiet pour eux. Je suis pas inquiet pour les non-professionnels et j'ai pas à m'inquiéter pour les non-professionnels. Je dis à un moment donné que chacun fasse son métier convenablement, que chacun ait les compétences pour le faire.
Il va y avoir du tri, en fait.
Le personnel, mais c'est sûr que le personnel aujourd'hui, la nouvelle génération, ne fera pas ce qu'on a fait. Et ils ont raison. Voilà. Est-ce que c'est normal, monsieur, de faire travailler les gens le week-end avec les mêmes taux horaires? Est-ce que c'est normal de faire travailler les gens le soir avec le même taux horaire? Non. Voilà, je l'ai fait, moi, je l'assume complètement, ça m'a pas de problème. Mais donc, il faut tout mettre à plat et tout revoir, intelligemment.
Merci Yves Condebord d'avoir été avec nous, restaurateur bien connu à Paris. Merci Yves Condebord. Patrick nous rejoint au 32-16. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Patrick, vous êtes dans la capitale de la gastronomie, à Lyon.
Ah, c'est un petit ouais ça.
Pourquoi ?
Non, parce qu'en fait, je rejoins en fait Yves Condebord lorsqu'il dit que ben les professionnels se font de plus en plus rares, quoi. Moi, j'ai quoi ? J'ai 4 adresses à Lyon où je vais régulièrement.
Pourtant, il y en a beaucoup plus, non ? Moi, j'aurais pensé qu'il y en avait beaucoup plus de bonnes adresses.
Non, c'est l'escroquerie.
C'est
de l'arnaque. C'est l'arnaque à touristes.
C'est quoi, c'est l'arnaque ? C'est des bouchons à attrape touristes ?
Ah oui, il y en a de plus en plus et c'est affligeant même. Moi, je vous conseillerais 4 adresses, voilà quoi, et pas plus quoi. Je suis un passionné de cuisine, donc.
Patrick, ça a toujours existé. Si vous allez pour faire un bon gueuleton du côté de Montmartre, vous allez être déçu. Hein.
Ouais, c'est des trucs pour touristes et tout.
J'ai l'impression que Patrick nous dit que c'est de plus en plus, il y en a de moins en moins de bons restaurants.
Moi, je suis un passionné de cuisine, ce qui fait que je cuisine beaucoup chez moi. Et des fois je vais au restaurant
c'est moins bien.
Avec l'entreprise ouais.
Et c'est moins bon que la maison.
Je suis meilleur. Je suis un chef quoi.
Mais moi ça m'arrive aussi.
Je vous conseillerais un petit bouchon à Lyon si vous venez à Lyon un jour. Le Poêlon d'Or, pas cher, excellent.
Voilà. Le Poêlon d'Or.
Voilà, rue des Remparts des Nez à Lyon, dans le deuxième arrondissement.
Pour pas faire trop de pub, il y en a un deuxième que vous conseillez ?
Pardon ?
Et pour pas faire trop de pub à un, il y en a un deuxième que vous conseillez ?
Après, moi, là où je vais souvent, c'est en dehors de Lyon, c'est la mer Bicheronne, lieu dit de la Bichonnière, où vous allez manger un saucisson brioché fait maison.
On n'a pas mangé encore.
Coq au vin fait maison et un gratin dauphinois, mais digne de ce nom, quoi. Et vous n'allez pas payer cher, quoi.
Il faut connaître. On me dit, Paul, qui est le producteur de cette émission, me dit chez Mounier.
Oui, mais.
À côté de la place Bellecour.
Après, c'est plus cher, quoi.
On les paye bien ici, vous savez, RMC, le producteur, là. Voilà.
Entrée, plat et dessert avec un petit quart de vin rouge et un petit café, vous en avez pour 30 euros, quoi. Voilà, quoi.
Il faut Patrick, visiblement. Donc, à vous, à Antoine Patrick, on peut encore trouver de bons restos, pas trop chers. Bien servi et avec voilà qui sont bons. Il y a la qualité prix quoi.
Trois quarts c'est à Lyon, c'est une catastrophe quoi. Capitale de la gastronomie mondiale, je veux bien, mais bon, c'est une catastrophe quoi. Tout le monde se fait à faire n'importe quoi, n'importe comment.
C'est ce que disait Yves Condebord à l'instant.
À partir de là, ouais.
Il était sévère. Hein, 80% de nos restaurants, c'est des arnaqueurs.
Hein. Ce que dit notre auditeur et ce que disait Yves Condebord, c'est que finalement cette crise va peut-être avoir un bienfait, c'est-à-dire que ça va faire un tri. Entre les bons et les mauvais.
Oui. Merci Patrick d'avoir été avec nous depuis Lyon. Et tout de suite, on va rejoindre Sylvain. Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour.
Au 32-16, bonjour. Nîmes-et-Vilaine.
Oui, bonjour.
À la Bouxière, c'est ça ?
La Bouxière, oui, exactement.
La Bouxière, pardon. Vous faites quoi dans la vie ?
Alors moi, je suis routier, donc voilà.
Est-ce qu'il y a encore des bons routiers ?
Là, j'entendais parler Patrick, donc on ne parle pas de la même catégorie de...
Non, mais est-ce qu'il y a encore des bons restaurants routiers ?
En toute honnêteté, il y a encore quelques-uns qui sont bons. On mange très bien, malheureusement, en Bretagne. En Bretagne, on mange encore très bien pour à peu près entre 14 et 15 euros. Nos frais de route, il faut savoir que nous, on a 15,20 euros à peu près pour deux paniers pour manger midi. Donc voilà, on arrive avec... Mais ce qu'on mange, quand je dis à peu près bien, vous mangez d'une marque basique, enfin du métro et voilà, ici il y a une promotion sur le poulet ou le poisson, vous avez dans tous les restaurants aux alentours du poulet ou du poisson au menu. Les légumes, il y en a occasionnellement un peu, les quantités réduisent automatiquement.
Ah bah ça,
c'est vrai qu'on c'est devenu, moi je sais que personnellement maintenant on cuisine beaucoup le week-end, j'adore cuisiner avec ma femme, on cuisine énormément et je pars avec 2-3 barquettes pour le midi.
Le retour de la gamelle.
Le soir, il faut bien s'arrêter pour prendre notre douche et se laver, mais le soir, vous prenez votre douche, vous prenez un repas et vous buvez avec un café et éventuellement un petit demi histoire de finir la journée, vous avez pour 22 euros quoi.
En Bretagne, passez la Loire, vous allez dans le sud, vous en avez facilement pour 25 à 26 euros un routier, quoi. Donc voilà, pour vous dire, on a été il y a 15 jours, 3 semaines à voir un artiste à Rennes. On s'est dit, on va se faire un petit plaisir avec des copains et des amis. On a été à un petit restaurant à côté. On a eu pour 35 euros par personne. Moi, j'ai mangé une choucroute et un verre de bière.
Ouais, ça fait cher le chou.
Beaucoup de choucroute et pas trop beaucoup de saucisses.
Elle a pris un tagine de poisson, il y avait un petit bout de lotte, trois noix de Saint-Jacques, le reste c'était des légumes. Le menu était à 28 le plat était à 28 euros. À un moment,
en même temps, ce que décrit Sylvain, enfin, encore une fois,
mais tu retourneras plus.
Pardon?
Mais tu retourneras plus.
Bah non, j'y retournerai plus, non. Bah, encore une fois, ce que je voulais dire aussi à tout à l'heure avec Front de Borde, c'est comme, et même c'est des restaurants que j'avais dans lesquels j'avais l'habitude d'aller, j'ai vu quand même des choses, un service qui se dégrade. Je demande pas attention un service 4 étoiles, etc. Juste quand vous arrivez, vous êtes à peine assis, qu'on vous demande qu'est-ce que vous avez choisi, qu'est-ce que vous prendrez, et puis que 5 minutes après le plat arrive, il y a un problème. Et puis quand vous voyez que la quantité se réduit, et puis que vous voyez que le plat que vous aviez d'habitude de prendre est passé de 18 à 25 euros ou 24 euros, on n'y retourne plus. C'est clair. Merci à Sylvain d'avoir été avec nous depuis la Bouexière en Ille-et-Vilaine, et Claude nous rejoint. Bonjour Claude.
Oui,
Claude. Bonjour. Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Claude,
merci à vous de me recevoir.
C'est un plaisir. Vous nous appelez depuis le département de l'Essonne.
Exactement, de l'Essonne.
Bon, vous allez de temps en temps au restaurant, j'imagine, Claude.
Ah, moi, en tant que client, oui, j'y vais. Alors, moi, je suis client et je suis aussi restaurateur. Parce que
vous êtes restaurateur, d'accord, très bien. Quel type de cuisine?
J'ai deux boutiques dans la restauration rapide.
D'accord, ok, très bien. Est-ce que vous avez encore envie d'aller au restaurant?
Alors oui, bien sûr, j'ai toujours envie d'aller au restaurant parce que c'est toujours un plaisir, c'est un moment convivial et très sympathique, en famille ou en ami, oui, toujours, toujours.
Et est-ce que vous n'avez rien vu changer? Vous n'avez pas trouvé qu'il y a des choses qui changeaient en ce moment?
Ben écoutez, il y a des choses qui changent, mais je le comprends tout à fait, puisque les restaurateurs subissent d'énormes augmentations et ils doivent faire face à toutes ces augmentations et ça doit être répertorié sur les prix. Ça c'est tout à fait normal. Maintenant, il ne faut pas que ça soit abusé, il faut que la qualité de service et bien sûr la qualité du plat ne change pas. Cependant, on comprend aussi qu'il y a des grosses difficultés de recrutement dans tous les secteurs et notamment dans la restauration.
Jérôme Lavrieux.
Vous êtes dans la restauration rapide, Claude?
Oui, tout à fait.
Et vous avez diminué les portions de frites ou pas?
Alors non. Alors moi, je suis dans la restauration rapide.
D'une grande chaîne. Ok.
De pizza.
D'accord. Ah, ça va. Donc moi, je suis allé chez McDo et j'ai trouvé que depuis qu'il y a la vaisselle en dur, non jetable, ma portion de frites a diminué. Ça m'a mis en colère.
Ça t'apprendra.
Scandale.
Et Claude, vous n'avez pas diminué vos portions?
Alors non, du tout. Nos pizzas sont les quantités ont été respectées.
Mais les prix,
Alors les prix, en effet, on a des conseils qui nous sont donnés d'augmentation de prix. On essaie de faire une augmentation des prix. J'en ai fait une il n'y a pas très longtemps, début d'année, mais très légère, à peu près 50 centimes par pizza, mais ce qui me paraît accessible, abordable pour les clients, mais il ne faut pas non plus trop augmenter puisqu'on risque de perdre.
Ah bah oui, bah ça, ça c'est sûr. Même contrainte que pour les boulangers, le boulanger qui nous explique avec l'augmentation, la flambée des prix des matières premières, qui nous dit moi demain si je mets ma baguette à 3 euros j'aurai plus de clients.
Exactement, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'on ne doit pas non plus perdre nos clients. Les clients sont fidèles à notre enseigne et ils restent contents de notre produit. Ils sont d'accord pour que les prix augmentent, mais il faut que ça soit raisonnable. Alors, on s'y retrouve pas spécialement, puisque je vais pas rentrer dans les détails de combien va me coûter.
L'ananas coûte cher sur la pizza. Hein.
Alors on a que deux
pizzas à l'ananas,
mais c'est la viande et c'est surtout les fromages, la mozzarella. On fait des produits, des fromages AOC, un reblochon ou autre fond d'Ambert. On a des produits de qualité. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas reporter tous les prix sur nos pizzas, c'est impossible. Parce que, sinon.
Vous êtes inquiet pour la suite, Claude? Parce qu'on nous annonce une nouvelle flambée des prix des matières premières, notamment.
Oui.
Au bout d'un moment, comme vous le dites, je ne peux pas monter mes prix de manière infinie. Vous êtes inquiet?
Alors oui, je suis très inquiet et donc je sers. On essaie de serrer différents coûts et faire beaucoup d'économies. Mmh. On essaie d'en faire, que ce soit sur la masse salariale, même si on n'a pas le choix de faire des économies sur la masse salariale, parce qu'on manque de personnel et on cherche tout le temps, on recrute tout le temps. C'est impressionnant, mais on court après nos personnels. Mmh. Et je suis même concerné, puisque je passe énormément de temps dans mes points de vente pour combler le manque de personnel. Ça, c'est, quand je parle de ça, je parle de l'ensemble de mes collègues franchisés et de tous ceux qui sont dans la restauration. Mmh. On est obligé de compenser, puisqu'on connaît le métier très très bien et on fait le boulot de deux, peut-être de trois, je ne sais pas, mais on est obligé de compenser. Sûr.
Merci Claude d'avoir été avec nous, Claude qui nous a appelé depuis le département de l'Essonne. On vous a posé la question, Alfred, est-ce que vous avez encore envie d'aller au restaurant, la réponse ?
Eh ben vous répondez non à 59%, oui à 41%. Deux messages, deux sons de cloche. D'abord Isabelle, pour moi le restaurant ça reste un bonheur. Ce n'est pas la quantité mais c'est bien la qualité qui m'intéresse, le goût et le super travail des cuisiniers. Puis Stéphanie qui nous écrit, la dernière fois que je suis allé au restaurant, j'ai pris une salade, j'ai découvert trois feuilles sans vinaigrette pour 40 centimes de plus, soit 2,90€ au lieu de 2,50€. Ça m'a dégoûté.
Dans un instant, RMC s'engage pour vous, Johanna Chabastan, d'aider René. René, il voulait investir ses petites économies dans un EHPAD. Il s'est retrouvé floué. On va tenter de l'aider. C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC et sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. Elle est à mes côtés, elle s'appelle Johanna Chabas et elle est là pour vous aider.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Salut Johanna.
Salut.
RMC s'engage pour vous. Ce matin, aujourd'hui plutôt, René nous a écrit à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. René veut nous mettre en garde contre un nouveau type d'arnaque.
Oui, René, il voulait bien faire, mais en fait, aujourd'hui, il s'en mord les doigts. Ce retraité vit à Lyon. Sa vie tourne désormais autour de ses deux filles. Et pour les aider financièrement, l'an dernier, il décide de faire fructifier ses économies. Après quelques recherches sur Internet, le retraité tombe sur des offres très alléchantes pour des investissements dans la construction d'EHPAD. On lui promet, tenez-vous bien, un rendement de plus de 8%. C'est absolument énorme le monde des investissements. Et donc, il laisse ses coordonnées, puis est rappelé très rapidement par un conseiller qui dit travailler chez Kervita. Alors, ce nom-là ne vous dit peut-être rien. C'est une entreprise du groupe Domus Vie, un gestionnaire d'EHPAD bien connu. Donc, pour René, tout semble carré.
J'avais une opportunité qui paraissait plausible, avec des conseillers commerciaux très performants en termes de communication. J'ai une adresse mail, j'ai aussi des numéros de téléphone qui commencent par 01, donc situés à Paris. Comme la société Kervita est située aussi à Paris, donc ils m'ont mis beaucoup en confiance.
Je sais pas pourquoi, mais je sens l'arnaque. Enfin,
Petite impression, elle est totalement juste. Hein, parce qu'en janvier 2022, René place toutes ses économies, 20 millions d'euros, sur un compte en Espagne.
20 000.
Ouais. Oui, je m'enflamme un petit peu.
20 millions d'euros, il rachète la boîte. Là.
C'est autre chose. Parce que 20 millions, la René n'aurait pas témoigné.
Je pense pas, malheureusement. Mais non, c'est 20 000, mais ce qui est déjà énorme pour lui. Et donc, il place sur un compte en Espagne, et c'est là que doit être construit ce fameux EHPAD. Et normalement, il doit toucher des intérêts tous les mois. Sauf que l'argent n'arrive pas. À ce moment-là, René parvient encore à joindre son conseiller qui lui répond « Ah, il faut encore investir 16 000 euros si vous voulez toucher votre argent. » Là, René sent le piège et refuse. Il n'aura plus aucune réponse à ses mails ou ses appels. Son argent s'est volatilisé. Il a porté plainte contre l'entreprise en mai dernier, mais ça a été classé sans suite. Hein? La justice, elle estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments.
Bon, c'est fort de café quand même. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment le groupe Domus Vie qui a arnaqué René.
Alors, on a enquêté avec Lise Dangean, vous voulez vérifier. Et en fait, non, Domus Vie est une deuxième victime dans cette affaire.
Usurpation.
Et voilà, elle nous révèle que les arnaqueurs ont volé son identité et son adresse pour induire des épargnants en erreur. La société a elle aussi porté plainte pour escroquerie et usurpation d'identité en décembre 2021. Et en fait, ce procédé est de plus en plus répandu selon Guy Gangirard de l'Association de Défense des Consommateurs. Il a vu ce type d'arnaque exploser ces dernières années. Aujourd'hui, il est près de 200 victimes.
L'arnaque est remarquablement bien faite parce que, en fait, on usurpe l'identité de société. Alors, des noms qui sont extrêmement connus dans le milieu des chambres médicalisées. On va lui voler son adresse, son numéro Sirette. On va lui voler toutes ses coordonnées, en fait, à part le téléphone, évidemment, et avec des contrats qui font des fois 5, 10, 15 pages en apparence sérieux.
Et donc l'association a déjà répertorié 70 sites d'investissement frauduleux. Quant à Domus Vie, sa plainte a elle aussi été classée sans suite, car l'auteur de son usurpation d'identité n'a pas été retrouvé.
Bon,
voilà. Mais le tribunal de Nanterre nous indique que ce dossier pourrait être examiné à tout moment si de nouveaux éléments sont apportés au parquet. Donc si jamais vous connaissez les choses, n'hésitez pas à les amener au parquet de Nanterre. Et de son côté, René est accompagné par Maître Emaleotti. Maintenant qu'il sait que ce sont bien des arnaqueurs qui l'ont trompé et non pas le groupe Domus Vie, il va déposer une nouvelle plainte contre X pour escroquerie et espère un peu relancer l'enquête.
Bon, on l'espère aussi. Parce que enfin, les arnaqueurs ont
besoin. Quand on
vous arrive à arnaquer quelqu'un, quand vous la justice dit non, bah, allez-y, c'est bon, sans
suite. Vous n'êtes pas du métier. Qu'on vous propose un taux d'intérêt exceptionnel, c'est qu'on veut vous gruger. Je veux dire, ça n'existe pas quand on n'a jamais placé l'argent, qu'on a 20 000 euros.
Dans ce cas-là, il n'y aurait plus d'escrocs en France. Parfois, il y a des gens de totale bonne foi.
Je sais bien, mais le message qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas de bon coup quand on n'est pas un spécialiste et qu'on a 20 000 euros à placer. Il n'y a pas de bon coup.
Bon,
il y a des coups honnêtes, mais pas de bon coup.
On va suivre, on continue à suivre cette affaire, évidemment. Johanna, merci. Johanna, et on se retrouve demain en direct du Salon de l'Agriculture.
Évidemment.
Je compte sur toi. On sera en direct du stand des Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture.
Au milieu du fromage et du saucisson.
Il y aura la boulette. Exactement, ce sera le pavillon 3. Allez, dans un instant, ce sont les immanquables d'Alfred Orange dans Estelle Midi sur RMC. RMC Story, à tout de suite.
RMC Estelle Midi. RMC Midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi sur RMC, RMC Story, comme tous les jours, c'est RMC Story, le canal 23 de la TNT, tous les jours, donc entre midi et 15h, et à cette heure-là, comme tous les jours, ce sont les immanquables.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Les immanquables avec Alfred Orange. Alfred, on commence avec l'adieu du jour.
Oui, Noël Le Graët n'est plus président de la Fédération Française de Football. Comme attendu, le dirigeant a présenté ce matin sa démission lors du comité exécutif. Démission acceptée par l'ensemble du comité. C'est la fin d'un long feuilleton, d'un long malaise autour du président, accablé au début du mois par le rapport d'audit diligenté par la ministre des Sports, qui le jugeait illégitime pour ce poste. Mais à 81 ans, Noël Le Graët est recasé. On vient de l'apprendre, il va diriger le bureau de la FIFA à Paris, un poste prestigieux que Noël Le Graët a réussi à décrocher, nous dit-on, grâce à ses compétences et son expertise du football français.
Pierre Normanien, c'est lamentable. Enfin, je veux dire, c'est lamentable, ridicule, dérisoire. D'abord, ce monsieur est hors course, hors champ, il faut qu'il s'en aille. Et ce côté d'être impossible, il faut s'accrocher, absolument impossible de quitter. Ce monsieur n'a aucun problème d'argent, n'a aucun problème de situation personnelle. Je trouve que ça donne une image.
Non, il a quelques problèmes. En tout cas, quelques accusations de comportement.
Il n'a aucune raison de continuer à vouloir absolument travailler, à s'accrocher à des postes qui doivent être d'ailleurs dûment rémunérés. Ce que d'autant plus, c'est un poste de direction et pas un poste de présidence, qui fait que ça doit probablement être beaucoup mieux d'ailleurs rémunéré. Je trouve ça effectivement assez lamentable et au fond, assez scandaleux. Je rappelle que même les cardinaux, passé 80 ans, ne siègent plus au concile, quoi. Je veux dire que le football français, c'est pire que l'église catholique en matière de progrès social et de, au-delà de 80 ans.
Conclave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son départ sous forme de démission, parce que personne ne pouvait le pousser à partir.
On l'a acheté, son
c'est
départ.
Fait en échange d'un poste qui lui permet de rebondir. Ce qui veut dire que dans ce COMEX, parce que c'est ce qu'on lit dans la presse spécialisée, notamment les journaux sportifs, tout le monde se tient par la barbichette. Parce que d'abord, ce COMEX a validé, couvert le fameux malaise que tu appelles toi un scandale toutes ces années au sein de la Fédération française de football, et que voilà, tout le monde se tient par la barbichette, et puis
quel camouflet pour le gouvernement, enfin pour je pense notamment pour la ministre.
Sauf que le gouvernement n'a pas de pouvoir.
On est bien d'accord. Mais c'est un camouflet, je suis désolé.
Mais c'est pas un camouflet
légitime pour diriger la Fédération française de football, et il retrouve immédiatement dans la foulée un poste à la FIFA.
Ça serait un camouflet s'il avait du pouvoir et qu'il l'a pas exercé.
De la fédération, une demi-tête.
Oui.
Moi, je pense qu'il a pu toute sa tête, en fait. C'est ça le problème. Et c'est qu'il ne se rend pas compte. Même pour lui, je trouve ça triste, parce que ça a été un maire de Guingamp pendant des décennies, maire socialiste. Il avait une vision de la société qui pouvait être progressiste, pour finir par se faire recaser par la pire chose qui existe, qui est la FIFA, qui croule sous les scandales les uns après les autres. Faut avoir abdiqué toutes ses convictions personnelles. Et moi, je pense que là, comme dans beaucoup de domaines, si on fixe une limite d'âge, c'est parfois nécessaire. Voilà, il faut savoir s'arrêter. Oui. C'est dommage d'être foutu à la porte. Il faut savoir s'arrêter de soi-même et qu'il y ait un renouvellement. Vous savez, on parle souvent de la démocratie élective. Moi, je l'ai regretté au départ, mais deux mandats successifs pour un président de la République, c'est bien, parce que même s'il était réélu 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est pas la même chose. Quand vous avez un maire qui fait 5 mandats, 6 mandats, 7 mandats, c'est pas bien non plus, même s'il a été réélu, parce qu'on s'habitue, on vit dans le confort du sujet, on se remet plus en cause. Là, c'est pareil, c'est président de fédération qui pense qu'ils doivent rien à personne, sauf à leur comité exécutif à la con. Je suis désolé, ils agissent, c'est une délégation de service public, président de la fédération de football. C'est l'État qui vous délègue une mission de service public qui est d'organiser des compétitions sportives. Donc, il doit rendre des comptes. Alors là, la FIFA, ces gens sont certainement brillants, mais en termes de communication, je suis pas sûr quand même.
On passe au soupçon du jour, Alfred.
Il est porté sur le réseau social chinois TikTok. La Maison-Blanche a demandé aux agences fédérales américaines de bannir l'application sur les appareils de tous ses employés. Les autorités américaines craignent que les données récoltées par TikTok soient utilisées par le gouvernement chinois. Tout cela s'ancre dans un climat de défiance vis-à-vis de Pékin, accusé d'espionnage il y a quelques semaines, vous vous en souvenez, avec ses ballons météo dans le ciel américain. Le Canada et l'Union européenne ont passé des consignes similaires à leurs employés. TikTok, de son côté, nie ces accusations et assure protéger les données de ses utilisateurs.
Sachant que c'est le réseau social aujourd'hui, je ne vais pas dire de bêtises, le plus utilisé au monde, en tout cas l'un des plus utilisés, et notamment par les plus jeunes.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça touche la partie la plus jeune.
Il y a une vraie inquiétude autour de ce réseau social.
Pardon ?
Il y a une vraie inquiétude, Thierry, autour de ce réseau
social. Alors, je pense qu'il y a une inquiétude parce que faut pas se leurrer. Les Chinois, ils n'ont aucun scrupule sur les collectes de données, sur le danger potentiel de ce réseau, parce que chez eux, ils interdisent aux enfants de moins de 14 ans d'utiliser le réseau de plus de 40 minutes par jour. Donc, ça les gêne pas de pervertir le monde entier et de faire attention à leur population. Quant à la collecte des données, ça leur pose aucun problème de collecter la donnée de leur propre population. On sait qu'elle est hyper surveillée. Donc, partie du soft power, ce qu'on appelle le soft power chinois. Ça intervient, comme tu l'as très justement dit, dans une période de tension avec les États-Unis, qui fait qu'évidemment tout le monde se méfie de tout le monde. Mais je pense que
Que les États-Unis, il y a l'Union européenne, le Canada qui ont pris les mêmes mesures.
Oui, oui, mais je pense que les dégâts sont déjà faits. Je pense qu'ils ont déjà aspiré toutes les données possibles et imaginables.
Ça va dans la même ligne que l'éviction des fournisseurs de hardware, c'est-à-dire les logiciels, les éléments électroniques pour l'équipement des antennes relais en téléphonie, etc. Parce qu'on savait que la Chine adore poser des bretelles et intercepter tout en passage. Sur TikTok, il y a quand même des responsables, c'est Baidu, c'est ça le propriétaire, qui ont dit qu'il a pu arriver par mégarde que des données personnelles aient pu être collectées contre notre volonté.
Oui, c'est ça.
Des choses qui arrivent par mégarde contre la volonté en Chine, j'en connais pas.
À l'insu de son plein gré.
Voilà. Oui, c'est ça, à l'insu de notre plein gré. Donc, moi, je pense que c'est Richard Virenque qui est derrière tout ça. Pierre-Edouard, plus sérieusement, est-ce que toi, tu as une réelle inquiétude à l'égard de ce réseau social? Alors, parce que encore une fois, enfin, je le disais tout à l'heure, enfin, c'est pas un petit, enfin, c'est un réseau qui a pris une ampleur phénoménale depuis quelques années, et notamment, je le dis auprès des plus jeunes et des jeunes en général. Il y a des questions à se poser.
Alors d'abord, de toute façon,
moi, quand j'entends que l'Europe, les États-Unis, le Canada interdisent
c'est l'administration de l'Union européenne.
Leurs employés utilisent TikTok, et quand moi je sais que ma fille, j'ai réduit à 30 minutes.
Le ministère français de la Défense a envoyé des directives pour demander à ses employés, nos soldats, d'être très vigilants sur les applications qu'ils utilisent, y compris à titre personnel. Je vous rappelle qu'en Ukraine, les Ukrainiens ont réussi à plomber des Russes qui communiquaient par des applications qu'on trouve n'importe où.
Pierre-Edouard.
Il y a un problème général, de toute façon, déjà à la base de collecte de données par l'ensemble des réseaux sociaux. Je pense d'ailleurs que l'Europe a mis en place. Non, mais il y a déjà un problème global, et rappelons-nous cette formule, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc le propre de ces réseaux sociaux, c'est qu'ils t'utilisent comme produit. Là, il y a en plus un problème qui se surajoute, qui est potentiellement un problème politique, un problème stratégique. Alors, faut pas non plus minorer la dimension politique communication de cette affaire dans le contexte avec la Chine. ne minorons pas cet aspect-là. Après, ce sont évidemment pas des anges, c'est une dictature relativement épouvantable, et c'est un euphémisme normand hein, quand je dis relativement épouvantable. Et effectivement, il y a du coup une inquiétude d'autant plus grande, puisqu'on sait qui est derrière TikTok. En Chine, une entreprise privée n'est jamais vraiment privée, et surtout pas de la surveillance de son gouvernement. Donc, évidemment, oui, c'est sûrement positif, mais au-delà de ça, ça pose toute la question de l'usage des réseaux sociaux, de l'usage d'Internet, et comment on arrive à maîtriser nos données. En Europe, il y a un règlement qui est en train d'ailleurs de faire école dans beaucoup de monde entier, auquel on veut soumettre l'ensemble des entreprises étrangères qui interviennent sur le sol européen. C'est évidemment très compliqué parce que, et si notre ami Anthony Morel était là, le problème c'est qu'on a toujours un coup de retard sur la technologie quand on veut en contrôler les effets. Mais la question de la gestion de nos données personnelles, de savoir ce que l'on fait, de la trace électronique que l'on laisse, c'est de toute façon un sujet important au-delà de la situation politique chinoise propre à TikTok.
Allez, on passe à l'accusation du jour, Alfred.
Oui, une jeune femme de 24 ans accuse le latéral marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, de l'avoir violée. La victime présumée qui s'est présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne dimanche matin affirme avoir été victime de baisers et de pénétrations digitales de la part du footballeur avant d'arriver à se libérer. Tous deux se seraient connus sur le réseau social Instagram. Le joueur aurait ensuite invité sa victime chez lui à Boulogne-Billancourt. C'est là que la rencontre aurait dérapé. Le joueur du Paris Saint-Germain était en tout cas seul chez lui à ce moment-là. Sa femme et ses enfants étaient en week-end à l'étranger.
Qui veut réagir ?
Je pense qu'il faut surtout attendre l'ouverture d'une enquête, l'enquête qui va se faire, et ensuite les différents témoignages qui vont être recueillis. Là, c'est une information qui est tombée il y a moins de 24 heures. Mmh. C'est très compliqué de dire quoi que ce soit sur ce sujet. L'important, comme d'habitude, et c'est heureusement un mouvement qui a pris de l'ampleur, c'est on écoute les victimes. Puis après, on enquête et on essaie de trier le bon grain de livret.
Jérôme ?
Si c'est vrai, c'est grave. Et oui. Tous les mots de cette phrase sont importants.
Ouais.
Si c'est vrai, c'est grave. Si c'est pas vrai, c'est grave aussi.
J'allais te dire, c'est exactement ce que j'ai été dans les deux cas.
Est-ce que c'est grave
parce
aussi
parce que le nom est sorti, parce que voilà. Dans la presse, dans les médias,
on revient, risque de
forcément, la prochaine fois où il sera sur un terrain, tant que l'enquête sera pas... L'avis ne sera pas rendu, il n'y a pas de...
Et oui.
Et surtout, je ne sais pas si ça bougeait, parce que ce matin, en fait, par contre, cette victime supposée, au sens du droit, hein, ouais. Que j'emploie le terme, elle n'avait pas, pour l'instant, pas souhaité porter plainte.
C'est ça.
Il faut absolument, j'allais dire, oui, il faut absolument qu'elle porte plainte, parce qu'il y a aussi que comme ça qu'il y aura véritablement une enquête. Alors, je pense que le procureur va se saisir d'office.
Non, il y a une enquête préliminaire.
Mais donc, oui, il faut.
Le parquet s'est auto-saisi.
Voilà, le parquet s'est auto-saisi, donc il faut effectivement attendre l'enquête. Après, voilà, je suis toujours gêné. Qu'on jette ces procédures, finalement, aussi bien d'ailleurs pour la victime que pour la personne mise en cause, qu'on ait des détails que je trouve parfaitement sordides et qui... donc voilà, je trouve que c'est toujours gênant. Et en tout cas, j'espère qu'on suivra, parce que si c'est vrai, il faut qu'il soit évidemment exclu et condamné. Et si c'est faux, il faut aussi que ce soit dit, de manière à ce qu'il soit aussi dûment réhabilité, ou sinon on va encore refaire tous les discours qu'on a eus sur Julien Bayou, sur d'autres personnes, ouais. Etc., où on achetait des noms, et à la fin, il y avait rien. En tout cas, il n'y a pas eu de conséquences judiciaires, et nous, on ne peut s'arrêter que là. Et du coup, et dans les deux cas, effectivement, comme l'a très bien dit Jérôme, si c'est vrai, c'est grave. Si c'est pas vrai, c'est grave aussi.
Le banco du jour, Alfred.
Il est à mettre au crédit des touristes étrangers de retour en force après le Covid. L'an dernier, ils ont généré 58 milliards d'euros de recettes. C'est ce qu'annonce Atout France, l'agence chargée de la promotion du tourisme français à l'étranger. 2022 fait mieux que 2019, dernière année avant la pandémie. Les Belges, les Allemands et les Britanniques sont les touristes qui ont le plus dépensé chez nous, juste devant les Américains, un record. Alors que les touristes venant d'Asie, eux, se font toujours attendre en France.
Thierry Moreau.
Je suis très content que les Belges viennent dépenser 7,3 milliards d'euros en France. Ouais. Je trouve que c'est bien parce que c'est, j'aime beaucoup les Belges.
Elle n'est pas une blague belge, c'est une clientèle.
Mais je pensais pas que c'était les Belges. Franchement, quand j'ai vu ce classement, j'ai été surpris. Après, je pense que, les Asiatiques, ils ont du mal encore à revenir chez nous, mais ça va
encore des restrictions en Chine.
Il y a encore des restrictions, mais elles sont de plus en plus levées quand même.
On en a parlé la semaine dernière. Il y a de moins en moins de Japonais qui veulent désormais voyager à l'étranger. Contrairement à ce qu'on pense, parce qu'à Paris, c'est très, les Japonais aiment beaucoup Paris, etc. Mais on en voit. Bah,
non, mais en volume, c'est les Chinois.
Très peu,
ouais,
exactement, c'est oui. Très peu. Les Japonais, oui. J'avais vu ça. 35% des Japonais voyageaient réellement, occasionnellement, en dehors de leur archipel. Et aujourd'hui, ils ne sont plus que 30% à le faire. Il y a de moins en moins de Japonais.
Ouais. La seule chose que j'espère, c'est que.
30% de Chinois, ça te fait des centaines de millions.
Bien sûr.
La seule chose que j'espère, c'est ceux qui sont revenus, notamment dans la capitale, sont suffisamment contents de la capitale qu'ils trouvent pour pouvoir y revenir.
Ça, c'est une autre question.
Voilà.
C'est une autre interrogation.
Je sais pas, vous savez, il y en a ceux qui vivent dans le monde d'Emily in Paris, les Américains.
Ah bah
sont très fans de cette série, ils viennent. Mais apparemment, ça a l'air de leur plaire quand même.
Ouais.
Ils vont pas forcément aux mêmes endroits que les personnes qui habitent ou qui travaillent à Paris.
Tu ne visites pas une ville comme tu y vis.
Heureusement.
Moi, je suis pas parisien en plus, donc voilà.
Heureusement
mais je veux
pour
dire,
Paris. Je te comprends.
Moi, j'entends ici beaucoup de choses sur Paris, et moi qui ne suis qu'un Parisien oui. occasionnel, j'ai pas forcément ce même sentiment, mais c'est en même temps révélateur.
La Tour Eiffel est assez propre.
Hein. Oui, puis quand tu te balades à Montmartre, c'est vrai qu'il y a plein de touristes.
Non, mais c'est agréable. Du tourisme à Paris, mais j'y
voilà,
passe.
La France n'est pas Paris, n'est pas que Paris.
On est bien d'accord.
Il y en a beaucoup qui viennent en province, et moi, je suis très heureux d'accueillir souvent. J'ai pas beaucoup d'Américains, ça m'est arrivé une fois, de l'Alaska qui était venu en Dordogne, mais j'ai souvent des Belges et des habitants des Pays-Bas. Ah, des Hollandais, des Pays-Bas. Ah, oui.
Donc 7,4 milliards, Jérôme, parce que les Belges, 7,4 milliards.
Eh oui, ça ne se sait pas assez, je suis milliardaire.
Allez, on termine avec le gâchis du jour.
Les impôts d'écoute.
85 000 viticulteurs français vont être contraints de distiller une partie de leur volume, faute de débouchés. Deux raisons à cela. D'abord, la baisse de la consommation française. On boit de moins en moins de vin dans l'Hexagone. Et puis, à l'étranger, seuls les vins très haut de gamme s'exportent bien. Résultat, les excédents de vin vont être transformés en alcool pour l'industrie, la pharmacie ou les cosmétiques. 200 millions d'euros vont être débloqués pour dédommager les viticulteurs.
Thierry Beau.
Oui, c'est ça, j'avais lu entre 160 et 200 millions d'euros débloqués par le gouvernement pour distiller cette surproduction. Les agriculteurs réclament en plus 10 000 euros par hectare de vignes arrachées. Je pense qu'on a un problème et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la restauration. C'est-à-dire que ceux qui font du bon vin de qualité à des prix honnêtes vont s'en sortir. Les très hauts de gamme vont s'en sortir parce qu'ils ouais. importeront toujours. Et puis, il y a un tout venant, pas très bon, pas très agréable, qui lui souffre.
Alors, est-ce que c'est pas la même chose que tout à l'heure pour les restaurateurs? On va faire le ménage?
Je pense que le tri va se faire de facto. Voilà.
Le client est roi, hein. Je suis désolé, on disait ça dans les années 80.
Ah non, je suis d'accord.
Le client est roi, va forcer des gens à acheter. On a aussi un problème de positionnement. On a eu ce débat avec Péricot il y a quelques semaines. Le problème, c'est qu'en France, on essaye de vendre des étiquettes. Alors que les gens, dans le monde entier, ils achètent de la couleur et du cépage. Mmh. Et donc, le sous-château de je sais pas où, du Claude machin, qui vend rien. Voilà. Il faut s'adapter aussi. Le client est roi. On va pas les forcer à boire.
Et je vous rappelle, en parlant agriculture, que demain, nous serons en direct et pour le reste de la semaine, en direct du stand des Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture à Paris, pavillon 3. Et c'est là que se trouve, en ce moment même, Vincent Moscato. Salut Vincent.
Comment va, Rémi Barré?
Et toi-même?
Comment ça va? Vous allez bien, quoi? Tout le monde?
Oui,
salut tout le monde, bien entendu. Et oui, nous, les pauvres, on n'a accès qu'à des vins de sous-base. On n'a pas accès au Gaillac, à ces produits de luxe, bien sûr. Le Gaillac.
Bon, t'es bien installé là?
Ah, je suis bien. D'ailleurs, en parlant de produits, on parlera du maroilles. Est-ce un fromage ou une punition, puisqu'on
non.
est...
Non.
Honte à toi.
Puisqu'on est bien sûr au stand des Hauts-de-France, on est au Salon de l'Agriculture avec toute l'équipe du Super Moscato Show. Alors, on reviendra sur la démission de Noël Le Graët.
Ouais.
Ce soir, un match qui pourrait relancer Lyon. Lyon-Grenoble en Coupe de France. L'OL peut-il sauver sa saison? Est-ce la bonne année pour gagner à Twickenham? Oui, chez les Anglais, ça fait du bien.
C'est toujours bien de gagner là-bas, Vincent.
C'est bien de gagner les Anglais, quand même. C'est tellement bien. Tu vois. Ah. Et notre dernier débat, je ne sais pas où il est, notre dernier débat.
Le stand d'à côté.
Retour de Neymar sera-t-il un problème? Parce qu'on a l'impression qu'ils ont trouvé un peu la formule entre Messi et Mbappé. Alors, on dit qu'à 3, c'est plus compliqué de jouer 3 stars, c'est comme un hit. Mais c'est quand même. C'est comme l'amour, tu vois.
C'est compliqué. Ça complique un peu les choses.
Avec le maroil. Avec le maroil.
Tout est possible.
Pour ceux qui n'ont pas l'image. Vincent.
Il y en a qui sentent le maroil. Parce qu'à 3, il y a plus de chances.
Vincent, pour ceux qui n'ont pas l'image, là, tu es en doudoune et en écharpe. Tu crois pas que t'en fais un peu trop parce que t'es dans les Hauts-de-France, là?
C'est les Hauts-de-France, bon. Je me rappelle que là, c'est Céline. Là, t'as des mecs qui arrivent. Les après-ski, tout ça, il vaut mieux être quand même bien couvert, je te le dis. Il fait très froid. Hein.
Les
mecs pour ski.
Du sud-ouest, ils tiennent pas la route.
La routine Carmélite, l'ancienne tennisman, qui est du nord, elle aussi, mais ça se voit.
Très bien. Bonne émission à toi, Vincent. Belle émission. Super Moscato Show tout de suite sur RMC depuis le stand des Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture, où nous serons en direct dès demain, entre midi et 15h pour Estelle Midi. À demain.